Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, parce que la Macédoine s'est dite prête, vous l'avez entendu, mardi dernier, à un changement de nom, une mesure qui mettrait fin à 27 années de litige avec la Grèce. Bonjour Jean-Arnaud de Reims.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Cette annonce intervient après d'importantes manifestations en Grèce voisine contre l'usage du nom de Macédoine par la jeune République balkanique. En fait, depuis 1993 et l'adhésion à l'ONU de l'ARIM, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, Athènes s'oppose à toute utilisation officielle du nom seul de Macédoine. Alors ce litige de voisinage sur fond de héritage antique n'a rien de pittoresque, hein. Il a des implications politiques, puisque la question est sensible pour les forces conservatrices respectives dans les deux pays, et des implications géopolitiques aussi, puisque la Grèce a jusqu'ici systématiquement bloqué les demandes d'adhésion de la Macédoine à l'Union européenne et à l'OTAN. Enfin, la Macédoine, qui est un petit pays enclavé de 2 millions d'habitants, historiquement enjeu de conquête et de partage, est aussi un symbole des déchirures et potentiel foyer d'instabilité dans les Balkans. L'Union européenne s'en est inquiétée depuis quelques mois, l'OTAN s'impatiente, quelques rencontres diplomatiques en début d'année pour relancer les négociations. Alors après 27 ans, la question est-elle réglée grâce à ce contexte? Ce n'est pas sûr, puisque Jean-Arnaud de Reims, la première ou la seule chose dont on soit certain pour l'instant, c'est que l'on est d'accord pour un accord.
Oui, disons que les deux gouvernements manifestent leur bonne volonté. La semaine dernière, lors du sommet de Davos, les deux premiers ministres, le macédonien Zoran Zaev et son homologue grec Alexis Tsipras, se sont rencontrés. Depuis, la Macédoine a effectué ce que j'appellerais un geste de bonne volonté en débaptisant l'aéroport de Skopje qui portait le nom d'Alexandre le Grand et qui va à nouveau s'appeler aéroport de Skopje. De même, l'autoroute qui traverse le pays du nord au sud ne va plus s'appeler Alexandre le Grand, mais autoroute de l'amitié. Il y a donc une bonne volonté évidente de la part des deux gouvernements. Par contre, les négociations seront encore très difficiles. Il faut rappeler que la Grèce demande non seulement que la Macédoine n'utilise pas le nom de Macédoine, mais que ce terme, plutôt que le terme de Macédonien, ne soit pas non plus utilisé pour désigner les habitants, les citoyens de ce pays, ni la langue qu'ils parlent. Donc même s'il y avait un accord sur un nouveau nom qui pourrait être, selon les informations que l'on a, celui de Haute Macédoine, les choses ne seraient pas encore réglées. Déjà, par exemple, Athènes demande que ce nom soit écrit et soit prononcé dans sa variante slave, soit Gorna Macedonia. Mais cela reste totalement ouvert, la question de la désignation des habitants du pays et du nom de la langue qu'ils parlent. Pour eux, les gens qui vivent en Macédoine se considèrent comme macédoniens. Ils estiment que la langue qu'ils parlent est le macédonien.
Oui, je crois même que c'était le ministre de la Défense grec qui souhaitait que la Macédoine s'appelle Vardaska, du nom d'une province de la République yougoslave avant la guerre. Une question qu'on peut se poser sans qu'on soit historien, c'est qu'on voit que ce litige a des ramifications historiques et sans doute identitaires, mais pourquoi l'Antiquité, alors qu'on pourrait dire qu'au XIXe siècle, le voisin historique plutôt envahissant, c'était la Bulgarie ou l'Albanie pour la Macédoine?
Non, alors l'Albanie, non, franchement, pas du tout. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Macédoine est un territoire au cœur des Balkans qui a toujours été revendiqué par tous ses voisins. La région historique de Macédoine, elle existe, elle est connue, ses limites sont à peu près acceptées par tout le monde, mais cette région historique de Macédoine, lorsqu'elle faisait encore partie de l'Empire ottoman, était revendiquée aussi bien par la Grèce que par la Bulgarie et la Serbie. Au début du XXe siècle, la querelle de la Macédoine était le cœur, le symbole de l'ensemble des conflits balkaniques, et c'est d'ailleurs à partir de cette situation que le terme de Macédoine en est venu dans certains pays comme la France à désigner une salade de fruits ou de légumes pour évoquer la diversité de langues, de peuples, de confessions qui vivaient sur ce territoire. Durant ces années, il y avait un double mouvement, un mouvement de lutte contre l'occupant ottoman et un autre mouvement pour nationaliser les habitants chrétiens de cette Macédoine. Concrètement, aussi bien Belgrade que Sofia ou Athènes utilisaient des guérillas, c'était les andartes grecs, les comitis pro-bulgares, les tchetnitsi pro-serbes, et puis les trois pays utilisaient également le pop et l'instituteur, l'église et l'éducation pour essayer de convaincre les habitants de ce territoire qu'ils étaient respectivement bulgares, serbes, grecs. Ensuite, cette situation a débouché sur la seconde guerre balkanique, celle de 1913. La première guerre balkanique en 1912, tous les pays des Balkans sont alliés et l'Empire ottoman est chassé des Balkans. Mais aussitôt après, éclate une seconde guerre pour le contrôle de la Macédoine qui se solde par un partage de cette région historique avec à peu près 50% du territoire qui est attribué à la Grèce, 40% au royaume de Serbie et 10% à la Bulgarie. Les 40% qui reviennent à la Serbie, que l'on appelle la Macédoine du Vardar, vont donc devenir serbes, puis yougoslaves, et vont former, après 1945, la République socialiste fédérative de Macédoine, qui est elle-même devenue indépendante en 1991. C'est ça l'histoire sur le long terme de ce territoire très particulier, mais en permanence, notamment après 1945, il faut rappeler que la Bulgarie a toujours eu des prétentions sur la Macédoine yougoslave, tandis qu'en 1948, après la guerre civile grecque, tous les habitants slaves de la Macédoine Grèce ont été chassés de Grèce, et ce sont des gens qui, encore aujourd'hui, ne peuvent pas revenir en Grèce si leurs documents d'identité indiquent qu'ils sont nés dans une commune qui se trouve aujourd'hui en Grèce et qui serait orthographiée dans leurs documents d'identité sous la forme slave des noms de lieux. Par exemple, si sur un passeport figure l'appellation Souloun, qui est la désignation slave pour la ville de Thessalonique, capitale de la province grecque de Macédoine. On est donc toujours dans cette situation où le territoire de la Macédoine est contesté, l'identité même des Macédoniens, comme peuple spécifique, n'est acceptée que du bout des lèvres, surtout par Sofia. Sofia a été le premier pays à reconnaître, dès 1991, l'indépendance de la Macédoine, mais en disant néanmoins qu'il considérait les Macédoniens comme des Bulgares. Les choses se sont depuis un petit peu normalisées avec Sofia, même s'il y a encore quelques semaines, le ministre bulgare de la Défense, issu de l'extrême droite, s'étonnait et les Grecs manifestent pour affirmer le caractère grec de la Macédoine, en disant, mais enfin, tout le monde sait que la Macédoine appartient à la Bulgarie. Yeah. Cela montre bien que du côté bulgare, les choses sont loin d'être réglées. Et pour les nationalistes serbes, la Macédoine est toujours la Serbie du Sud.
Et alors, je crois qu'il y a 125 pays qui reconnaissent le nom constitutionnel de la Macédoine, Republika Makedonija, pardonnez ma prononciation. Mais ça amène deux petites questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est accommodé jusqu'ici d'une coexistence, justement, de deux noms? Et comment ça se fait qu'on en arrive à régler la question, semble-t-il, ou à faire preuve de bonne volonté aussi rapidement aujourd'hui?
Alors, en 1991, donc, la République fédérative de Macédoine devient indépendante sous le nom de République de Macédoine, Republika Makedonija. Mais elle ne va pas être reconnue et elle ne va pas pouvoir adhérer dans les institutions internationales comme l'ONU sous ce nom en raison du veto grec. Et c'est pour cela qu'un nom provisoire va être trouvé, celui d'ancienne République yougoslave de Macédoine, ARIM ou FYROM, selon l'acronyme anglais. Ces deux noms coexistent depuis donc près de 25 ans. La question est restée gelée durant des années. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, l'OTAN principalement considère que la stabilité de la Macédoine est une clé essentielle de la stabilité régionale et l'OTAN voudrait donc intégrer au plus vite la Macédoine. Mais pour intégrer la Macédoine, il faut résoudre cette question en raison, bien sûr, toujours de la menace du veto grec. C'est donc pour cela que depuis que le gouvernement nationaliste conservateur du VMRO de Pomenoe a été chassé à Skopje en avril dernier, depuis qu'un nouveau gouvernement social-démocrate est arrivé au pouvoir, que les négociations ont repris avec, je dirais, beaucoup plus de détermination que dans le passé. On peut donc supposer que nous sommes effectivement en vue d'un accord. Toutefois, il ne faut pas oublier que la question demeure extrêmement sensible en Grèce. On l'a vu avec les énormes manifestations de Thessalonique et d'Athènes. À Athènes, il y avait près d'un demi-million de personnes, pas seulement des gens de la droite conservatrice, il y avait également l'Église, il y avait beaucoup de secteurs de la société grecque qui ont manifesté. Et du côté macédonien, les choses ne sont pas forcément beaucoup plus simples. Si beaucoup de gens en ont assez de cette situation, de ce blocage, et s'ils veulent que leur pays s'engage enfin dans la voie des intégrations à l'Union européenne et à l'OTAN, beaucoup de Macédoniens, néanmoins, ont beaucoup de difficultés à envisager de cesser de s'appeler eux-mêmes macédoniens. Mmh. Et a priori, pour qu'un éventuel accord soit validé, il faudra en passer par un référendum en Macédoine, dont l'issue demeure extrêmement aléatoire.
Donc une équation difficilement réalisable, effectivement, compte tenu des forces dans chacun des pays. Des facteurs favorables, vous l'avez dit, notamment ces pressions de l'OTAN, l'inquiétude de l'Union européenne qui vient de relancer un plan pour les Balkans. Est-ce que ces pressions extérieures, ça vous semble le meilleur facteur pour arriver à un accord tenable ?
Alors, je pense que, surtout, les habitants de la Macédoine ont envie de sortir de l'impasse. Je pense que c'est ça le plus important. Du côté européen, il ne faut pas oublier que la Macédoine a le statut officiel de candidat depuis 2005. Ceci étant, depuis 2005, le pays n'a effectué rigoureusement aucun progrès en raison du blocage lié à ce veto grec. De ce point de vue, je pense que l'Union européenne n'est pas un acteur très important sur ce dossier. C'est plutôt l'OTAN qui a aujourd'hui pris en main la direction des opérations, même si, pour le coup, les négociations sont toujours menées dans un cadre des Nations Unies.
Oui, et puis à souligner parmi les facteurs favorables, vous l'avez dit, l'arrivée de Zoran Zaev l'année dernière, Premier ministre albanais. Merci Jean-Arnaud de Reims, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Informations et vidéos, page internet et fil Twitter des enjeux. Et puis le nouveau bouquet de podcasts international que France Culture lancera dès lundi prochain parmi quatre autres. À lundi donc pour évoquer probablement la tournée de Narendra Modi, Premier ministre indien.